Bien. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter aujourd'hui Luca Pietromarchi, qui est professeur à l'université de Rome III, qui a été professeur invité à la Sorbonne il y a quelques années, quand j'y étais encore, et qui est donc intervenu dans le séminaire que je faisais à l'époque avec André Guyot, je crois, qui avait parlé là, et qui a publié un certain nombre de livres que je vais vous rappeler, qui portent sur le 19e siècle et le 20e siècle français, sur Gustave Flaubert, L'exotisme romantique, je traduis le titre, L'esotismo romantico, l'illusion orientale, Gustave Flaubert et l'exotisme romantique, sur Nerval. C'est également un spécialiste de Patrice de la Tour du Pin, sur lequel il a publié un livre. Alors, il est l'occasion de le faire venir sur Les Fleurs du Mal est liée au fait qu'il a publié une édition des Fleurs du Mal en italien en 2008. Une édition commentée, et j'ajouterai que Luca Pietromarchi est un spécialiste de la traduction poétique, donc de la traduction de la poésie française en italien, et en particulier les traductions de poètes italiens. J'ai déjà introduit son sujet, puisque c'est Baudelaire et les nombres, et que je l'ai effleuré au début de ma leçon d'aujourd'hui, mais il vient de me dire qu'il allait me contredire. Alors, c'est pas bien grave que j'ai commencé à occuper ce terrain. À toi, merci. Lucas.
Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence. Chers amis, je vous remercie de l'honneur de m'avoir invité dans une si prestigieuse institution, cette institution qui est la vôtre, afin d'intervenir au sein de ce cours sur la question cruciale de la modernité de Baudelaire. C'est en effet un lieu commun que d'assumer la poésie de Baudelaire comme le point de départ de la poésie moderne. Plus exactement, une longue tradition critique a prétendu reconnaître dans le dernier vers des Fleurs du Mal le premier vers de la poésie nouvelle. Comment dire, son coup d'envoi. Ce lieu commun trouve son point d'appui dans l'exclamation qui clôt le voyage, le dernier poème des Fleurs du Mal. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. La poésie moderne peut en effet être comprise comme exploration de l'inconnu, comme réponse aux séductions d'un nouveau toujours marqué par l'apposition d'un préfixe qui force les limites du monde. Et ce sera l'inconnu, l'illimité, l'infini, soit-il compris dans le sens de l'altitude ou de la profondeur. Dans cette perspective, le gouffre devient le lieu qui cache dans sa nuit le sens d'une nouvelle liberté. Liberté qui réclame que la mesure de la tradition et de la versification, la mesure du monde ancien et jusqu'à la mémoire de cette mesure soit abandonnée afin que la poésie puisse enfin aborder à l'inconnu qui se dilate dans l'infini. À quel point Baudelaire fut-il sensible à cet appel du large et de l'illimité, à cette aventure dans l'innombrable qui est peut-être le chiffre de la modernité? Ou, pour citer le célèbre dernier vers de l'infini de Giacomo Leopardi, « Et il naufragar me dolce in questo mare »« Et le naufrage dans la mer de l'infini m'est doux » Baudelaire connut-il ou même désira-t-il jamais cette douceur? Ou bien n'envisagea-t-il plutôt le naufrage dans l'infini et dans l'innombrable seulement comme une terreur? Cette question, je voudrais l'aborder à la suite d'Antoine Compagnon en suivant les oscillations que subit le thème du nombre dans l'œuvre de Baudelaire. thème qui comprend et l'idée de la mesure et en même temps de la démesure, pour aboutir à en relever toute la complexité dans le miroir d'un des vers les plus énigmatiques des Fleurs du Mal, à savoir le dernier vers du sonnet qui s'intitule « Et pour cause, le gouffre ». La poésie est le nombre, donc. Le poète n'est pas un mathématicien, et pourtant, tout poète ne cesse de compter. Il compte le nombre des vers, le nombre des syllabes, le nombre des strophes. Il ne cesse de confronter paroles et nombres, assignant à la poésie la fonction d'endiguer le discours infini de la prose, la contraignant à l'intérieur d'un rapport numérique et donc harmonique. Ainsi que l'écrit Baudelaire dans « Mon cœur mis à nu », tous les arts donnent l'idée de l'espace, puisqu'ils sont nombre et que le nombre est une traduction de l'espace. La poésie traduit l'infini en nombre. Sa parole réabsorbe l'infini dans le calculable, dans le mesurable et donc dans l'habitable. Mais surtout, la poésie conjure l'angoisse que les nombres eux-mêmes, à cause de leur caractère infini, peuvent susciter. L'angoisse de l'illimité et de l'incalculable, expression d'un univers dominé par le principe d'une infinie multiplication de toutes choses qui peut donner lieu à une vertigineuse dissémination de l'être. Le romantisme, bien avant Baudelaire, connut bien cette peur de la dissémination qui égare l'être loin de son idéal matrice unitaire. C'est cette peur qui justifie l'importance du thème romantique de la chute, ainsi que la fascination et la répulsion à l'égard de l'abîme. Thème qui peut se décliner en chute de l'être dans le temps, ainsi qu'en chute du monde dans l'abîme de l'incalculable, parmi les fragments produits par l'explosion du principe d'unité qui préside aux origines mythiques du monde. Le livre de la sagesse dit l'univers disposé selon, je cite, « mesure, nombre et poids ». L'imagination romantique projetera cette unité dans l'image du nombre 1, 1 qui est le nombre qui contient tous les nombres, ainsi que le secret de leur accord harmonique. D'où l'image pythagoricienne de la suave musique que produirait le mouvement cosmique des sphères. Ainsi, la chute qui sanctionne le passage du mythe à l'histoire signifiera avant tout la fragmentation de l'un qui, précipitant, essaime dans le monde l'infinité des nombres. Au cœur de son article sur Victor Hugo, Baudelaire pose la question suivante. Comment le père 1 a-t-il pu engendrer la dualité ? Et s'est-il enfin métamorphosé en une population innombrable de nombres ? Mystère. La totalité infinie des nombres doit-elle ou peut-elle se concentrer de nouveau dans l'unité originelle ? Mystère. Cette question, me semble-t-il, est cruciale pour tout le romantisme. Résumant le sens de la quête romantique d'un principe d'unité capable de restituer la fragmentation du réel au sein d'une dimension unitaire. Ou en d'autres termes, de révéler, derrière les apparences d'un univers incalculable, sa clé harmonique. À la crainte du nombre, comprise comme terreur du pluriel, s'accompagne ainsi la fascination du nombre comme figure de l'ordre caché du monde et métaphore d'une harmonie qui se confie aux mathématiques, aux sciences, mais aussi à la poésie, afin d'être réintégrée dans sa souveraineté. En dénombrant sa parole, le poète, on pourrait dire, recalcule le monde. Il est le prophète moderne qui jette son regard dans l'abîme de la réalité, là où le « un » est précipité, désintégré en nombre sans fin, et sans suite. Victor Hugo dira J'ai vu des choses sombres, j'ai vu l'ombre infinie où se perdent les nombres. Or, Victor Hugo ne se bornera pas à contempler le mystère du pluriel. En effet, les poètes sont les mages, je cite toujours Hugo, qui ramassent dans les ténèbres les faits, les chiffres, les algèbres, le nombre où tout est contenu, et tous les morceaux noirs qui tombent du grand fronton de l'inconnu. C'est du Victor Hugo pur, n'est-ce pas ? Ce fronton qui tombe en débris est en fait celui de l'édifice pythagoricien et euclidéen. Ces nombres jetés par terre annoncent peut-être la prolifération des nombres irrationnels, imaginaires et des systèmes numériques complexes que la science mathématique était justement alors en train de découvrir. Et Baudelaire fut sensible à cette découverte. Nombres qui feront éclore la possibilité d'imaginer d'autres mondes ainsi que d'autres dimensions en projetant le fini dans l'infini. C'est la question que se pose justement Baudelaire, toujours à propos de Victor Hugo. Le monde des astres et le monde des âmes sont-ils finis ou infinis ? Cette question, Victor Hugo l'affrontera en jetant résolument sa sonde, je cite ce que dit la bouche d'ombre, dans l'ombre infinie où se perdent les nombres. Ou encore, et je cite un spectre m'attendait, dans le tourbillon des chiffres tumultueux, flot de l'océan nombre. Or, face à cette menace, la poésie romantique fera prévaloir une attitude nettement conservatrice. Cette attitude se prouve par l'attention réservée, surtout jusqu'à la moitié du XIXe siècle, aux suggestions du néopythagoricisme des Illuminés du siècle précédent, qui constitue une dérivation ésotérique du platonisme. L'unité métaphysique que Pythagore désigne comme l'origine de la création serait d'ordre numérique. Dieu est le premier des nombres, et voici la prière des pythagoriciens, ainsi que Jean Blic nous l'a transmise. Nous invoquons ta bénédiction, nombre divin qui a engendré les dieux et les hommes. Saint Augustin recueillera cette tradition pythagoricienne transmise par la pensée platonicienne et greffera l'arithmologie dans le corps doctrinaire du christianisme. Je cite, « La raison, je cite De Ordine, n'aime rien tant que la beauté, et dans la beauté, les figures, dans les figures, les dimensions, et dans les dimensions, le nombre. » L'écho de ces propositions se transmettra de siècle en siècle, et au XIXe, nous le retrouverons intact, par exemple et surtout dans Séraphita de Balzac, qui, d'après Claude de Saint-Martin, définit le nombre en ces termes : la première marche du péristyle qui conduit à Dieu. C'est avec ce sens, donc, que le nombre, je pense, se retrouvera chez Baudelaire, mais également doublé de son contraire : marche qui fait monter vers l'harmonie ou marche qui descend vers l'abîme. Et je reprends là la grande, célèbre citation qu'Antoine Compagnon vient de faire. Ce ne sera pas la seule. Heureusement que vous êtes arrêté. Tout est nombre. Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l'individu. L'ivresse est un nombre. Cette affirmation péremptoire se trouve à la première page donc de Fusée. Sa collocation signale la centralité du thème du nombre ainsi que sa foncière ambivalence. Et c'est ainsi que je rejoins le thème central de ce cours. S'il est vrai que la proposition qui la précède dit « Le plaisir d'être dans les foules est une expression mystérieuse de la jouissance de la multiplication du nombre », c'est ce que nous venons d'entendre, autre part, Cette même multiplication provoque, je cite, une dégradation de l'individu et de la matière. Jouissance ou dégradation, hantise ou fascination, tels sont les deux pôles entre lesquels l'imagination baudelairienne ne cessera d'être aimantée, prouvant le bien fondé de la formule d'Antoine Compagnon dans son grand livre, à savoir que le destin de l'être baudelairien se situe, je cite, « entre le nombre et l'innombrable ». D'un côté donc, l'ambition de pouvoir encore mesurer, calculer et rythmer poétiquement la réalité. Et de l'autre, la conscience, ou nous le verrons peut-être, la peur face à une modernité sortie de l'orbite tracée par les termes augustiniens de poids, d'ordre et de mesure. Baudelaire, écrit Georges Blin, je cite, « est obsédé par la vie sans mesure ». De cette obsession de l'illimité, la mer est sans doute le miroir privilégié, la mer en tempête, telle qu'elle apparaît dans le sonnet justement intitulé « Obsession », à qui s'adresse l'invective du second quatrain. « Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes. Mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer, de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. » Cette dernière image, le rire énorme de la mer, dont Antoine Compagnon a ici même parlé, Baudelaire, vous le savez, la tire de De Quincey, du Prométhée enchaîné d'Eschyle, où il apparaît que « énorme » est la traduction de « anarithmos », c'est-à-dire « innombrable ». Cet espace sans mesure est en fait l'espace d'une défaite. L'homme vaincu du troisième vers que je viens de lire, présente le même participe passé qui blesse l'espoir dans le spleen qui précède immédiatement obsession. On s'en souvient, l'espoir vaincu pleure. Si je peux ainsi m'exprimer, c'est là le pleur salé de la défaite qui se dilate jusqu'à devenir une onde océanique en produisant le vacarme d'un rire qui emporte l'espérance d'échapper à l'innombrable. Et l'horreur de la mer, bien entendu, se transmet à cet autre espace de l'innombrable et de l'énorme qu'est la ville. Je suis donc le parcours de votre cours. Noir océan de l'immonde cité, ainsi que le dit le vers de Mesta et Erbund, qui scelle leur association. En fait, tout est nombre dans le Paris baudelairien, surtout dans les tableaux parisiens. Ce Paris traversé par une foule littéralement océanique est dominé par le mauvais démon de la multiplication. Ce démon qui, dans la fourmillante cité des sept vieillards, produit, M. Jackson nous l'a montré, l'hallucinante vision d'un horrible vieux qui se multiplie par sept. Car je comptais sept fois, de minute en minute, ce sinistre vieillard qui se multipliait. La multiplication par sept, c'est l'arithmétique de la malédiction biblique qui s'étend à la ville moderne et qui investit ici le passant et provoque le naufrage de sa raison dans la mer à nouveau de l'innombrable, dans cette mer, je cite, « monstrueuse et sans bord » qui clôt la poésie, laissant derrière soi le poète, je cite, « malade et morfondu, l'esprit fiévreux et trouble ». Avec ce dernier vers, la dissémination du pluriel et la multiplication du nombre subit un déplacement décisif, se projetant sur le plan de l'expérience personnelle. Le pouvoir désagrégant du nombre met en crise la perception unitaire non seulement de la réalité extérieure, mais du sujet lui-même, en faisant apparaître les symptômes d'une maladie qui semble menacer le noyau même de la personnalité. Les Sept vieillards est une poésie qui date de 1859, 2 ans avant la Notae Rebellis de 1861, qui a été ici évoquée au début du cours. Et il suffira de 3 années afin que ce vers révèle sa nature de présage. Le présage de ce que Baudelaire confiera dans la section Hygiène de Mon cœur mis à nu. Le passage est bien connu. J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Maintenant, j'ai toujours le vertige. Et aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité. C'est la lucide annonce de la crise qui frappera Baudelaire à Namur pour le conduire à l'aphasie de ses derniers mois de vie. Les symptômes de cette crise, le poète les décrit dans le paragraphe qui précède immédiatement cette annotation. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre. Non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, du nombre. Le gouffre, mot qui revient 18 fois dans Les fleurs du mal, est un des grands thèmes de l'imaginaire baudelairien. Ainsi que l'écrit Benjamin Fondane dans son grand livre, il constitue, je cite, « la seule chose qu'il exècre, mais qu'il tient pour réelle ». Le gouffre est l'espace sans mesure où toute digue rompue, le rythme du monde précipite en cacophonie. Et la sensation du gouffre du nombre est suscitée par le tourbillon que provoque l'unité de l'être en se délitant en chaos de nombre, tout en précipitant. Le nombre abyssal, si on peut ainsi dire, le nombre abyssal est le nombre qui gouverne la réalité dans laquelle l'être baudelairien ne cesse de tomber. Et ce sera en précipitant dans cette nuit des nombres sans nombre que Baudelaire, au lendemain de la crise témoignée par Fusée, écrira le sonnet « Le gouffre ». Le voici. Pascal avait son gouffre avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres! Attention, il y a une petite erreur, mais c'est quelque chose d'essentiel, manque un tiré avant le A du dernier vers. Et toute ma lecture repose sur ce tiré. C'est justement sur le dernier vers que je voudrais attirer votre attention. Ce que nous disions en ouverture sur l'ambivalence du thème du nombre dans la poésie de Baudelaire y trouve en effet son exemple paradigmatique. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. S'agit-il d'une exhortation ou d'un regret? La grammaire ne vient pas en aide et légitime une double paraphrase. Injonctive la première, il ne faut jamais sortir des nombres et des êtres. Optative la seconde, à ne jamais pouvoir sortir des nombres et des êtres. La majorité de la critique, mais avec la prudente et lumineuse exception de Claude Pichois, a privilégié cette seconde option, le regret de ne jamais pouvoir sortir des nombres. Il s'agit d'une lecture qui annexe ce vers au réseau thématique que nous avons jusqu'à présent parcouru et qui ne dissimule pas son fondement biographique en assumant le témoignage de Fuset comme, je cite Crépé-Blin, je cite, « le plus précieux et le plus direct canevas de notre poème ». Le sonnet est ainsi situé dans un contexte, pour ainsi dire, clinique. Je cite Crépé-Blin, « c'est un malade qui nous parle, un obsédé, un malheureux voué à la paralysie générale ». Le rappel que nous faisions aux sept vieillards a en effet montré comment multiplication et infection puissent être pris dans le même mouvement de dissémination de la réalité et de l'être. Et c'est bien de la sensation d'une vertigineuse chute sans fin que parle le sonnet, d'une chute dans un espace secoué par un vent terrible, le vent de la peur, vers 4, qui rappelle certainement le vent du coup d'aile de l'imbécilité provoqué par la chute de toutes les images que la première strophe énumère chaotiquement, action, désir, rêve, parole, dans le vide creusé par la progression du gouffre en abîme et en trou, vous le voyez. Dans cette perspective, le dernier vers serait le cri désespéré d'une âme qui a conscience d'être elle-même prise dans le tourbillon de la multiplication de la réalité et qui exprime son regret de ne pouvoir sortir des nombres. Les nombres qui, de ce point de vue, effectivement, sont, pourrait-on dire, le chiffre d'un mauvais infini. Cette lecture, qui attribue au nombre une valeur négative, relève implicitement d'un idéalisme foncier. En fait, il est aisé de reconnaître, derrière ce cri de désespoir, l'appel à un infini qui se situerait au-delà des nombres et qui constituerait l'horizon dernier de la poésie de Baudelaire, du moins de son idéal. Deux citations peuvent servir à marquer cette orientation. La première, rappelée par Crépé-Blin, est tirée du Dies Irae de Le Comte de Lille. Et toi, divine mort, où tout rentre et s'efface, affranchis-nous du temps, du nombre et de l'espace, et rends-nous le repos que la vie a troublé. La deuxième citation appartient aux pensées et paradoxes de Laforgue. Je cite, « Par la contemplation sereine, esthétique, scientifique, ou philosophique, on échappe à soi, on est affranchi pour un instant du temps, de l'espace et des nombres. On meurt à la conscience de son individualité, on monte, on atteint à la grande liberté. » Nombre, temps et espace, chez le Comte de Lille, donc comme chez Laforgue, sont les trois portes qui empêche l'accès à l'absolu. Et cette lecture idéaliste du gouffre assigne la même fonction à la fenêtre du vers 11, derrière laquelle s'étendrait cet infini qui polarise le désir d'atteindre l'insensibilité d'un néant affranchi, finalement, de la tutelle des nombres. Et mon esprit jalouse du néant l'insensibilité. Désir nié, mais non pour cela moins intense, relevant de ce goût de l'infini qui serait, d'après Georges Blin, la matrice de la poésie baudelairienne et que Max Milner appelait son hantise de l'absolu. Cependant, ce goût de l'infini, dans les fleurs du mal, s'appelle souvent « Goût du néant ». D'après le titre du sonnet qui se termine par cette interrogation désespérée, « Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute ?» Cette supplication est un cri de résignation, une invocation qui prolonge la dramatique exclamation d'obsession, sonnet qui précède immédiatement le goût du néant. « Car je cherche le vide et le noir et le nu. » L'absolu qui s'étend au-delà des êtres et des nombres, chez Baudelaire, est donc en fait, me semble-t-il, la plus redoutable des dimensions. Elle ne peut être invoquée que sous forme antiphrastique afin de masquer une foncière horreur de l'illimité. Il est ainsi problématique, du moins, d'accepter l'interprétation du dernier vers du gouffre comme le regret de ne pouvoir jamais sortir des nombres, si au-delà des nombres, au-delà des confins du réel, l'imagination baudelairienne sait que seul le vide et le noir et le nu lui sont réservés. En un mot, derrière les nombres, chez Baudelaire, il n'y a pas la grande liberté de la forgue, il n'y a plutôt rien que d'autres nombres. La phobie du vide peut engendrer une pulsion nihiliste. Et le vertige qui saisit l'être baudelairien, comme dans le flacon au bord d'un gouffre obscurci, est poétiquement une sensation dont Pierre-Emmanuel a mesuré toute la grande fertilité. Mais il demeure que pour Baudelaire, ce dernier des classiques, l'abîme est avant tout un lieu de terreur. Par trois fois dans le gouffre résurgit le mot « peur ». Et au vers 4, vous le voyez, avec une majuscule. Cette même majuscule que portent seulement deux autres mots du sonnet, nombre et être. L'économie des majuscules dans les fleurs du mal est une science exacte. Et la correspondance de Baudelaire avec son éditeur montre l'extrême attention qu'il réservait, ainsi qu'au tiré, à leur distribution. Le tiré indique une suspension du discours. La majuscule indique une valorisation sémantique. Et ces deux signaux sont également présents dans le dernier vers. Je vous prie de le croire. Ils doivent être ainsi compris comme l'expression d'une volonté d'isoler, de détacher ce vers des strophes qui précèdent. Il en résulte que le nombre majuscule ne doit pas être considéré comme le chiffre de la dissémination, comme le chiffre de la dissémination de l'un, mais qu'il faut lui reconnaître une autre signification qui s'oppose à la minuscule de la peur et à la multiplication du réel. Et ce sera la signification que sous-entend la seconde possible interprétation du vers, à savoir l'admonestation à ne jamais sortir des nombres, peine la dissolution de l'être dans l'abîme, à ne jamais sortir des nombres dans le sens de « ne sortez jamais des nombres ». Ces nombres, avec majuscules, il faut alors les comprendre, si vous me permettez l'image, comme des sentinelles situées au bord de l'abîme, indiquant l'extrême limite au-delà de laquelle il ne peut y avoir de salut. Cette interprétation attribue au nombre une acception nouvelle et cette fois-ci lumineuse. Non plus chiffre d'un mauvais infini, le nombre devient sa limite, susceptible de substituer au vertige de la dissolution la contemplation d'un univers créé d'après un principe d'ordre, de mesure et d'harmonie. Toute chose, lit-on dans le Timée de Platon, tient sa figure de la combinaison des idées et des nombres. Proposition qui sera reprise par Nicomaque. Le chaos premier, privé d'ordre et de forme, fut organisé et ordonné d'après le nombre. Relancé par les illuminés du XVIIIe siècle, comme nous le disions, cette vision du monde atteint Baudelaire à travers Fabre d'Olivet et Swedenborg, mais surtout par l'intercession du maître qui, avec Pau, lui aurait, de son propre aveu, appris à penser Joseph de Maistre. Et voilà que je rejoins votre propos. Et je reprends les citations qui viennent d'être faites. Dans la huitième, mais dans une autre perspective, vous le voyez, dans la huitième des soirées de Saint-Pétersbourg, le comte donc exclame « Le nombre, messieurs, le nombre, où l'ordre est la symétrie, car l'ordre n'est que nombre ordonné, et la symétrie n'est que l'ordre aperçu et comparé. Dieu nous a donné le nombre, et c'est par le nombre qu'il se prouve à nous. » Le nombre, poursuit-il, Antoine Compagnon l'a déjà cité, c'est le signe, c'est la voix, c'est la parole de l'intelligence. Le nombre est ainsi la clé de tout principe d'ordre, de rythme et d'harmonie. Au-delà de l'empire des nombres, s'étend le royaume du chaos. On pourrait dire le royaume du gaz, en quelque sorte. Et toute création artistique sera avant tout exercice du nombre. Encore une fois, nous avons déjà entendu cette proposition. Ôtez le nombre, écrit toujours Maistre, vous ôtez les arts, les sciences et par conséquent l'intelligence. Ramenez-le, avec lui reparaissent ses deux filles célestes, l'harmonie et la beauté. L'art, donc, en rétablissant la légitime descendance qui relie la beauté au nombre, sollicite le goût de l'intelligence pour la symétrie. Et quant à la poésie, le comte se demande « Pourquoi la rime, les pieds, les ritournelles, la mesure, le rythme nous plaisent-ils dans la musique et dans la poésie ?» Et voilà la réponse. Parce que l'intelligence se plaît dans tout ce qui prouve l'intelligence et que son signe principal est le nombre. En d'autres termes, le rythme de la poésie restitue le monde à son premier ordre numéral. Le retentissement de ces pages de Maistre sur la poésie de Baudelaire fut profond, et on en trouve des traces immédiates dans Mon cœur mis à nu, au 30e paragraphe. La musique donne l'idée de l'espace, tous les arts, plus ou moins, puisqu'ils sont nombre et que le nombre est une traduction de l'espace. L'art est donc la science du nombre qui traduit, dans le sens qu'il conduit, l'espace dans une dimension mesurable, reconnaissable et donc sécurisante. Comme dans le sonnet La musique, où la musique berce l'esprit en conjurant la peur de l'immense gouffre, de l'étendue marine, prêtant à ses tumultes une cadence rythmée. Et ce sera en effet une autre page référée à la contemplation de l'infini de la mer, toujours dans Mon cœur mis à nu, qui offrira un témoignage décisif sur la fonction salvatrice que Baudelaire semble assigner, du moins, au nombre pythagoricien. Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable? Parce que la mer offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement. 6 ou 7 lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. Voilà un infini diminutif. Qu'importe s'il suffit à suggérer l'idée de l'infini total, 12 ou 14 lieues sur le diamètre de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée qui soit offerte à l'homme de son habitacle transitoire. La contemplation de l'infini sera donc praticable à la seule condition que cet infini soit réduit et compris à l'intérieur d'une dimension circulaire et mesurable, c'est-à-dire traduite en nombre. Le nombre qui conjure la menace et l'angoisse de l'illimité. 12 ou 14 lieues donnent l'image d'un infini dans le fini, pour reprendre la formule que Baudelaire emploie à propos de Delacroix. Telles sont les vertus de la musique et de la peinture, mais de la poésie également, qui traduit non seulement l'espace, mais la vie elle-même en nombre. Antoine Compagnon et Michel Deguy l'ont bien remarqué. 12 et 14 sont les nombres de la poésie. 12 et le nombre de l'alexandrin, 14, est celui du nombre des vers d'un sonnet, dont Baudelaire, dans une lettre de 1860, évoque du sonnet la beauté pythagorique. La parole poétique est donc parole nombreuse ou rythmique, les deux termes étant significativement synonymes. Et la poésie de Baudelaire ne sort jamais, quant à elle, du nombre. C'est une poésie qui a juré fidélité au principe de la versification classique, se confiant au pouvoir thaumaturgique de la rime et du mètre. Ainsi que l'écrit Jean Starobinski, cette régularité, ce respect de la norme traditionnelle, cette contrainte imposée ont une fonction de sauvegarde psychique. L'observance du nombre syllabique est l'antagoniste des pulsions destructrices et déstructurantes. On ne pouvait mieux dire. Nous pouvons ainsi revenir au gouffre. Un vent abyssal circule dans tout le sonnet, le vent de la peur qui semble creuser cet espace infini, affreux et captivant à la teneur si profondément pascalienne dans lequel l'être précipite. Mais du fond du sonnet se lève, dans la forme dialogique signalée par le tiret, le cri du dernier vers. En lestant les nombres du dernier vers de tout le poids sémantique que nous avons jusqu'à présent accumulé, ce cri peut alors être compris comme l'extrême sursaut d'une conscience qui voudrait conjurer la tentation de s'abandonner au néant du vers précédent. C'est contre cette tentation, toujours présente chez Baudelaire bien entendu, que la poésie convoque, en le désignant avec la majuscule, le pouvoir pythagoricien et mestrien des nombres. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Demeure encore une dernière ambiguïté concernant l'efficacité de cette exhortation. Tout le texte dit que le souhait de ne pas sortir des nombres, c'est-à-dire de se maintenir dans l'espace protégé du nombre, de la mesure qui est celle de la tradition, est un souhait qui n'a pas été exaucé. Le sujet qui dit « je » est un être qui a été comme expulsé dans une affreuse dimension qui a perdu l'intelligence du nombre. Il se situe au fond de l'abîme, mais néanmoins trouve-t-il encore la force de dire son désespoir par ce cri qui doit être compris comme l'expression d'un regret douloureux alors. Non pas le regret de ne pouvoir jamais sortir de l'incalculable, mais le regret d'avoir été expulsé dans l'innombrable, de ne pouvoir plus se maintenir à l'intérieur d'un espace gouverné par les lois de la mesure et de l'harmonie. Et c'est exactement ce même regret qu'exprimeront dans la poésie qui suit les derniers mots d'Icare, précipitant dans la mer infinie. En vain, j'ai voulu de l'espace trouver la fin et le milieu. C'est-à-dire appliquer la règle géométrique qui sert à nombrer l'espace. C'est alors, pour revenir une dernière fois au dernier vers du gouffre, le regret d'un être qui comprend d'appartenir désormais à un monde, serait-ce celui de la modernité, qui n'obéit plus à la loi des nombres avec la majuscule, mais qui pourtant, et lui aussi en vain, comme Icare, ne renonce pas à crier sa foi pythagoricienne avant de succomber aux puissances de l'incalculable. Et en précipitant, comme Icare, il adresse un dernier regard à ce mur aux arcatures presque divines, qui est l'image avec laquelle Yves Bonnefoy a autrefois si bien défini l'art des nombres. Cet art, et c'est ainsi que je voudrais conclure, qui aura néanmoins produit son dernier chef-d'œuvre dans la poésie nombreuse de Charles Baudelaire. Merci. Merci. Merci, merci. Paolo. Merci.
Merci pour ce très bel exposé qui, sur l'interprétation d'un poème et d'un vers difficile qui ont suscité beaucoup de commentaires. Malheureusement, je ne me souviens pas très bien en quel sens je l'ai commenté dans mon livre qui s'appelle Baudelaire devant l'innombrable, où il y a beaucoup sur ce poème et beaucoup sur ce vers.
Le tien était un commentaire très prudent.
Très prudent, oui. Très prudent.
Mais qui penchait vers le désir de sortir.
Vers le désir de sortir, plutôt que la peur de sortir.
Oui. Mais c'est une équation suspendue que l'on trouve en interprétation.
Oui. Oui. Non, parce que je suis fondamentalement d'accord sur le fait qu'il s'agit du nombre et du vers et de la sortie du vers, mais moi je ne limite pas le nombre au compte syllabique.
Non.
Le nombre, c'est le rythme. Baudelaire, parlant de vers nombreux, c'est le vers rythmé,
oui.
Comme il dit. Et comme il dit Baudelaire encore, quand il parle d'un vers nombreux, c'est un vers bien rythmé. Donc le nombre, c'est le décompte syllabique, mais pour Baudelaire, c'est surtout le rythme.
Oui.
Et donc quand on dit que Baudelaire ne sort jamais du nombre dans le vers, Baudelaire sort de plus en plus du rythme.
Oui.
Et Baudelaire ne sort jamais du nombre, au sens du décompte syllabique, mais de plus en plus de vers sortent du rythme de la poésie.
De plus en plus de vers, certainement, et lui-même sort-il avec un pas résolu avec le Spleen de Paris.
Oui, enfin, c'est autre chose.
Oui. Là aussi, il se réfère justement à cette prose sans rythme.
Mais les vers que tu signales à la fin des Sept Vieillards, à la fin des Sept Vieillards, Baudelaire sort tout à fait du rythme de l'Alexandre.
C'est comme une matérialisation de cette peur.
Voilà, c'est ça. Donc il y a, c'est pour ça sans doute que je vous souhaite moins m'engager que toi dans l'interprétation de ce dernier vers comme exhortation, puisqu'en même temps, il y a ces vers qui, pour moi, sortent du nombre.
Il y a la pression de cette menace contre laquelle il réagit ou il succombe. Oui. Effectivement, tout se joue toujours entre vaporisation et centralisation.
Oui.
Il est tenté par la vaporisation et tout le cours que tu fais aujourd'hui, effectivement, va dans ce sens. Mais, la vaporisation cache une menace.
Oui, la peur perpétuelle.
Oui.
Ces mots peur perpétuelle qui sont partout dans la correspondance,
qui est de
sortir, en effet, de ses limites. Quand on citait ces vers à tout casser comme une explosion de gaz, ces invitriers, c'est cette sortie du nombre.
Certainement. C'était une phobie chez Baudelaire, peut-être, bien sûr, qu'il éprouve.
Oui.
Disons,
mais en même temps, la sortie est irrémédiable.
Il est expulsé.
Comment ?
Il est expulsé par le monde. Cela ne lui empêche pas de penser, de projeter. Non pas cette réalité du nombre pythagoricien, mais qui n'est autre en fait que une image de la nostalgie, d'un ordre certainement perdu.
Oui. Donc, sur ce plan, évidemment, nous sommes absolument d'accord, puisque c'était tout dans ce que j'avais appelé les anti-modernes, c'était véritablement ça. C'était la véritable modernité de ceux qui avait la nostalgie de sortir de l'ordre et de l'harmonie, et effectivement dans ce que Joseph de Maistre décrivait dans cette citation qu'on a faite tous les deux aujourd'hui, où le nombre est l'ordre du monde. Et comme disait Joseph de Maistre, définit la différence entre l'homme et la brute.
Ah, certainement. Et implicitement, entre le bon nombre, le nombre majuscule, le nombre qui assure une structure close sur elle-même du monde, et le mauvais nombre qui est celui, que les antimodernes appellent le nombre de la démocratie, de la République.
C'est la tyrannie de la face humaine. Enfin, oui, l'expression de Baudelaire fréquente, la tyrannie de la face humaine, c'est le... Oui, c'est le nombre, c'est le fourmillement, enfin, c'est tous ces aspects du nombre qui ne font pas un. D'où l'intérêt de Joseph de Metz pour ce jeu de l'un et du multiple, l'intérêt de Baudelaire pour cette union mystique de l'un et du multiple.
Oui. Qui ramène vers le 1, disons, non pas la multiplication, mais en quelque sorte la division, qui ramène vers le noyau, vers un noyau central. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est de Maistre, certainement. Mais il n'y a pas de doute que Baudelaire captait dans l'air, comme disait Pierre Paché, non seulement les complots, mais même toute cette atmosphère néo-pythagoricienne, le magisme, l'ésotérisme. Certainement pas, il n'était pas adepte. Qu'avait-il lu? Très difficile de dire. Il connaissait Carreau, les ouvrages de Carreau, mais il captait dans l'air, certainement, tout cela, mais quelque chose de très profond, il l'a retenu, car ça collimait parfaitement, ça collait à ces figures fondamentales de son imaginaire, certainement.
C'est sûr qu'il n'y a pas de sortie, heureuse du nombre poétique, de la poésie comme nombre, comme rythme.
Non, et là, lorsqu'il tente une poésie sans rythme, la poésie du spleen de Paris, en fait, c'est une des proses les plus cadencées, les plus mesurées, où il est très facile de reconnaître une des comptes syllabiques, bien qu'involontaires.
C'est une prose rythmée.
Oui,
une prose rythmée. Oui, absolument.
Fortement rythmée.
Fortement rythmée.
Rythmée. Tout s'est joué sur le terme, ici, dans cette interprétation, du verbe « sortir », en fait. Oui. Sortir d'un lieu fermé. Alors, ce lieu fermé, il peut soit emprisonner, et donc, à l'extérieur, j'aurai la dimension d'une liberté, soit protégé, et à l'extérieur, donc, j'aurai une menace. Mm-hmm. C'est cela que j'ai voulu. Et ce qui est... En somme, j'ai trouvé une petite citation qui pourrait servir à faire voir tous les liens à ce qui se circulait dans l'air, mais... Claude de Saint-Martin publie en 1843 un livre qui s'appelle « Des nombres », justement. Et là, nous trouvons cette formule « S'éloigner des nombres, c'est s'enfoncer vers les ténèbres. S'en rapprocher, c'est accourir vers la lumière du verbe numéral. » C'est exactement la double dynamique que pose ce vers. Donc, avait-il lu les questions des sources? C'était dans l'air.
Oui.
Et Balzac est le grand intercesseur, disons, vulgarisateur, pasticheur de tout cela.
Et qui serait, je voudrais se demander, parce que bon, si on fait référence à Maistre ou à Claude de Saint-Martin, on fait référence à tout ce courant mystique, pythagoricien, illuministe, mais qui voudrait la sortie du nombre?
Baudelaire fut assez sensible aux grandes découvertes des mathématiciens. Alors, dans son article sur Hugo, il parle de Laplace, il parle de tous ces nouveaux univers que les nouvelles mathématiques, ce qu'on appellera les mathématiques hérétiques, sont en train de découvrir. Finalement, c'est une hantise qui rebondit profondément jusqu'à Mallarmé et bien au-delà. C'est le nombre infini, le nombre imaginaire, cette idée que le nombre est surtout un facteur de multiplication du possible. Tout cela n'est pas forcément vu comme, une échappée heureuse, mais comme l'ouverture d'une porte qui risque de mener au fond d'un escalier sans rampe dans lequel nous descendons.
Oui, il n'y a pas que la dimension politique.
Ni celle politique, il y a aussi celle scientifique. Mmh. Et toutes deux risquent de ne pas être seulement euphoriques. Certainement pas pour Baudelaire, me semble-t-il.
Bien, bah écoute, merci beaucoup. C'était une très belle analyse. Merci.